Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus, aussi nombreux. Je voulais remercier aussi pour commencer. Alors, je suis Alexia, membre du collectif La Traverse, qui organise l'événement de ce soir. Et je tenais à remercier l'Espace Mendès France, qui nous permet de faire cet événement, et particulièrement Céline Nolo, Anne Clermont, Jackie Deniol et Philippe, qui nous permettent de nous réunir ce soir. Voilà. Cet événement, comme vous l'avez sûrement vu, c'est une partie d'un événement en deux temps. Le deuxième, petit point technique, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui ? Pas trop vite. Oui. Donc ce soir, c'est la première partie d'un événement en deux temps. Le deuxième temps, ce sera demain midi à Niort, où Yassir Yeba, ici présent, va nous concocter un repas avec son association Territoire Alimentaire, dont tous les ingrédients viendront d'un rayon de 50 km maximum autour de Niort. Voilà. Et qui sera ce repas servira aussi à lancer un cycle de repas mensuels locavores qui auront lieu à Niort. Voilà. On a le plaisir d'accueillir Stéphane Linou, qui est conseiller général de l'Aude, qui est conseiller municipal de Castelnaudary, qui a lancé le mouvement Locavore en France et qui est auteur d'un livre enquête Résilience alimentaire et sécurité nationale, qui a notamment inspiré un projet de résolution au Sénat porté par Françoise Laborde. Voilà. Et l'événement de ce soir est organisé par le collectif La Traverse, donc je vais juste prendre 5 minutes pour présenter notre activité à moi et à Solène et Maxime, mes collègues ici présents aussi. Le collectif La Traverse, il est assez jeune. Il a été créé en septembre dernier, quand on a fini nos études en stratégie territoriale, en politique publique des territoires, parce qu'on a eu envie de travailler sur la transition écologique des territoires, notamment en milieu rural. Du coup, on travaille à temps plein là-dedans depuis septembre. En partie sur un podcast. Une partie de notre activité est consacrée à la réalisation d'un podcast. Donc c'est une émission de radio qu'on peut trouver sur Internet qui, à chaque fois, se concentre sur un territoire donné et sur les dynamiques de transition sociale et écologique qui y ont lieu. Et donc on va voir ces initiatives, à la fois celles des élus et aussi des associations, et on étudie comment ces initiatives mises bout à bout permettent d'améliorer la résilience du territoire. Donc sa capacité à faire face au changement climatique et au pic pétrolier ou à une hausse éventuelle du prix de l'énergie. Et à terme, ce qu'on veut faire, c'est accompagner des collectivités dans leur démarche. Et le podcast nous sert aussi à mettre en récit les choses qui s'y passent, et ça a un côté assez fédérateur. On travaille également à l'élaboration d'une grille d'analyse de politique publique locale, pour aider les maires pour qui le concept de transition écologique n'est pas très concret, ce qui est souvent le cas, pour essayer de les guider un petit peu dans ces démarches. Et on travaille également à faire des ateliers de sensibilisation, mais aussi qui servent à mettre au courant les citoyens d'une ville ou d'un village des enjeux énergétiques et climatiques auxquels leur territoire, comme tout territoire, vont faire face, et qui permettent de faire émerger une vision partagée de comment on répond à ces risques d'une façon qui soit solidaire et relativement positive. Et on va d'ailleurs faire plusieurs de ces ateliers dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et dernière chose, on fait aussi des occupations temporaires d'espaces vacants, parce qu'en milieu rural, il y a souvent beaucoup d'espaces vacants qui pourraient être utilisés pour améliorer la résilience locale. Donc on travaille avec les habitants et les associations sur les usages potentiels de ces espaces pour en faire des leviers de transition. Voilà, dernier point technique sur le programme de ce soir. Donc je vais laisser la parole à Stéphane. Après, on aura 30 minutes de questions-réponses à la fin. Et après, on ira boire un verre avec ceux qui veulent. Voilà. Et pour finir, on a voulu faire venir Stéphane parce que quand on parle de résilience, le sujet de l'alimentation est peut-être celui qui vient le plus rapidement en tête, parce que effectivement, face au changement climatique, comment on adapte nos pratiques agricoles, comment on relocalise la production alimentaire, parce que en produisant localement, on est mieux à même de d'adapter nos pratiques agricoles, on est en tout cas beaucoup plus à même de les adapter que si on dépend de circuits mondialisés d'approvisionnement. Et que réfléchir à l'échelle d'un territoire, comment on réorganise les circuits de production et de distribution alimentaire, c'est un bel exemple d'action collective qui réfléchit en termes, qui réfléchit à un niveau systémique qui ne met pas forcément l'accent sur une échelle individuelle culpabilisatrice, mais qui se dit collectivement on va recréer des circuits vertueux d'alimentation locale. Voilà, et cette question est d'autant plus d'actualité que le Grand Poitiers est actuellement dans une réflexion sur son plan alimentaire territorial, de même que beaucoup d'autres collectivités locales, puisque la majorité des collectivités locales actuellement travaillent sur leur plan alimentaire territorial. Voilà, je laisse la parole à Stéphane. Merci.
Merci Alexia pour cette pile au moment où j'ai... Non, mais on dirait que c'est téléphoné, c'est le cas, je veux dire. Excusez-moi. Ça fait pas pourri. Et... Voilà. Mais bonjour à tout le monde. Merci à la Traverse de m'avoir invité. Merci de m'avoir également permis, de me permettre d'apporter un peu, pas forcément des réponses, mais plus des questionnements sur une question essentielle, mais avec, on va dire, un angle d'attaque qu'on n'a pas forcément l'habitude de présenter. Donc, n'hésitez pas à me couper, on n'est pas sur un cours magistral. Donc, je demande à la maîtresse du temps de me rappeler que j'arrive à une demi-heure de présentation. Voilà, donc elle me fera signe. Et s'il y a des points que vous ne comprenez pas, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me couper. Je me ferai plaisir et un devoir de préciser. Voilà, donc je m'appelle Stéphane Linou, j'ai 44 ans et je viens ce soir vous présenter une partie de mes questionnements et de mon travail que je creuse en fait depuis à peu près une vingtaine d'années. Là, il est formalisé sous la forme d'un livre, mais qui est en fait une mémoire de recherche d'un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, donc que j'ai présenté au mois de janvier dernier. Donc parallèlement à mon travail, je suis conseiller en développement local dans une collectivité locale. J'ai repris mes études pour approfondir un sujet que j'avais en tant que citoyen, en tant que militant associatif, que j'avais embrassé il y a une bonne vingtaine d'années. Et en fait, j'avais voulu vérifier dans les endroits où, logiquement, la question de l'alimentation, ou du moins de la place qu'on lui accorde dans nos territoires, est-ce que cette question se pose dans les ministères, dans les syndicats agricoles, en fait, dans le monde des risques et dans le monde de la, production alimentaire. Est-ce que le lien entre le fait de produire à côté de chez soi, ou plutôt de ne plus produire sa nourriture à côté de chez soi, est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est vu comme un risque? En fait, c'est une question, comme on est encore dans une totale ébriété énergétique, depuis que nous avons tout basé, notre mode de développement, notre confort, sur une énergie dense et à bon marché qu'est le pétrole, sur laquelle Sapiens, l'espèce Sapiens Sapiens, ne s'est jamais développée, sauf depuis à peu près 150 ans. Depuis ce temps-là, depuis qu'on a accès à cette ressource magique, peut-être qu'on a, on a un peu oublié la valeur de nos territoires et la nécessité de les ménager plutôt que de les aménager. En fait, cette question-là, en fait, elle m'était venue il y a une bonne vingtaine d'années. Je suis géographe de formation. Et je me suis toujours posé la question. Hein, mes grands-parents étaient agriculteurs dans le Lot, en polyculture élevage. Et donc, ils étaient autosuffisants, hein, un peu comme le territoire à l'époque. Hein. Et au fur et à mesure que je grandissais, je voyais que des activités agricoles, s'ils avaient arrêté l'élevage, bon, ils partaient à la retraite. Hein. Après, ils ont arrêté les poules. Après, ils ont arrêté le jardin. Et maintenant, la maison qui a été reprise par mon oncle et ma tante, maintenant, c'est du persil et du thym. Mais on continue à manger. Et le territoire autour, qui était composé majoritairement de paysans, en polyculture et élevage, eh bien, il a connu un peu la même évolution que la maison familiale. Mais on avait toujours à manger. Et là, je me suis posé la question, mais comment c'est possible ? Est-ce que ça va durer autant que les impôts ? Donc là, en faisant mes études de géographie et aménagement du territoire, je m'étais toujours un peu... Voilà, ça me questionnait, je me posais ce type de questions. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à travailler, donc j'ai installé des paysans hein, dans une ADASEA. Ensuite, je suis travaillé dans l'accompagnement des agriculteurs en difficulté, création de circuits courts. Et ensuite, j'ai été embauché dans une collectivité locale comme conseiller en développement local généraliste. Et en 2003, donc je suis embauché comme agent de développement local généraliste. Et j'apprends l'existence des AMAP. Donc, vous connaissez les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui, en fait, m'étaient dit, mais tu es agent de développement local, et là tu as un système qui fonctionne. En fait, c'est quelque part les trois piliers du développement durable. On peut en penser ce qu'on veut du développement durable, qui est dépassé. Mais bon, ça permettait de dégrossir les choses. Il y avait des consommateurs qui s'organisaient et qui payaient à l'avance une production, style des légumes, à des producteurs. Il y avait les trois piliers, donc le pilier économique, étant donné que le prix de vente est calculé sur les coûts de production du producteur, mais enfin, le producteur, quelque part, vit de son métier, parce que le consommateur lui achète au bon prix. Le deuxième pilier, après l'économique, c'est le pilier environnemental. En fait, il y a un deal entre des producteurs qui disent, entre des consommateurs qui disent à un producteur, moi, le consommateur, je t'achète à toi, le producteur à l'avance, une production à condition que tu sois bio ou que tu t'engages à le devenir. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant. La pierre n'est pas jetée forcément sur le producteur et c'est un engagement à aller vers le mieux. Donc au niveau environnemental, globalement, c'est mieux. Et le troisième pilier, c'est le pilier social. C'est-à-dire que lorsqu'un producteur vit enfin de son métier, il peut rester avec sa famille, faire fonctionner les services publics, les écoles ou autres. Et il y a aussi des échanges entre producteurs et consommateurs et même entre consommateurs. Donc les trois piliers du développement durable, économique, social et environnemental. Mais moi, quelque part, j'avais envie de rajouter un quatrième pilier à l'époque. C'était en 2003, mais je n'osais pas trop le dire à cette époque-là. C'était quelque part le pilier sécurité. Pourquoi sécurité ? Tout simplement parce que si on s'intéresse à comment on consomme et par quels canaux de distribution, à peu près 80% de notre alimentation est achetée à travers les grandes surfaces, même en milieu rural. Ces grandes surfaces n'ont que même pas 2-3 jours de stock. Nous n'avons, en tant qu'individu, on ne produit quasiment plus notre nourriture. Si vous comptez le nombre de personnes qui ont un jardin, bon, par rapport au reste de la population, c'est peanuts. Il n'y a quasiment plus d'infrastructures nourricières, c'est-à-dire nos paysans, autour de nos lieux de consommation. Les collectivités locales n'ont pas de stock. et il n'existe plus de stock alimentaire stratégique d'État. Il n'y en a plus. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qui se passerait si, pour une raison ou pour une autre, du style une cyberattaque sur la chaîne logistique, une grève qui s'éternise, des blocages, une pandémie grippale, par exemple de niveau 6, qui ferait que les transports ont interdiction de fonctionner. Combien de temps on tiendrait avec le peu que nous produisons et avec le peu, voire la nullité, que nous stockons? Et là, je me disais, on se taperait dessus. Sachant que les populations, nous ne sommes pas psychologiquement préparés et que nous sommes complètement devenus intolérants à toute frustration. L'effet télécommande. Voilà. Donc, en fait, je m'étais dit, mais ouais, si jamais il y a un problème sur la chaîne d'approvisionnement, quelque part, il n'y a que ceux qui auront contractualisé et qui auront acheté quelque part à l'avance leur production auprès de leur maraîcher en AMAP qui auront un peu de nourriture. Bon. Alors ça, j'avais des copains qui me... Oui.
Vous avez quand même vu le comité économique social qui était dans le rapporteur était Pasquier, qui est quelqu'un qu'on connaît dans la région. Mmh. La France est autonome, a une autonomie alimentaire. Donc, je ne comprends pas du tout ce que vous racontez.
Alors je vais y venir, rassurez-vous.
Donc on est autonome.
Oui, vu de loin. Oui, mais tout n'est pas écrit dans les rapports.
Oh ben non.
Ah non. Mais on est d'accord. Mais justement, vous.
Est fait par il y a la Confédération Paysanne, mm-hmm. il y a toutes les organisations de paysans.
Oui.
Il a été validé.
Oui.
Donc vous remettez en cause ce rapport.
Oui. Mais il n'y a aucun problème. Je suis là justement pour amener ce que j'ai trouvé, qui a été validé par le gouvernement il y a 3 semaines. Oui. Ah ben, comme vous voulez, bon.
On fait du tournesol et du maïs, parce que dans la plaine, on fait du tournesol et du maïs, on n'est pas autonome.
Non, mais on va avec plaisir, on va échanger.
À l'échelle de la France.
Oui.
C'est le quatrième pays.
Oui.
Vous êtes d'accord? Le premier pays agricole, en surface agricole, de la communauté.
Oui, en macro, oui. En macro, oui, mais notre vie, elle ne se joue pas au niveau macro, elle se joue au niveau micro. Mais vous allez comprendre. Avec plaisir, on va en discuter.
Mais je vous laisse continuer.
Ah ben non, mais pas de souci. Donc, alors, vous pouvez me dire où c'est j'en étais, s'il vous plaît, parce que du coup, je ne me souviens plus. J'en étais, oui. On ne produit plus, on n'a plus la production au plus près de nous, et que nous sommes devenus intolérants à toute frustration, et que même en milieu rural, le milieu rural actuellement n'est pas capable de nourrir les ruraux, et nos territoires, même ruraux, sont sous perfusion alimentaire. C'est factuel. C'est factuel. On en rediscutera volontiers. Donc, partant de cette réalité, je m'étais dit, mais quelque part, il y aurait que, en grossissant un peu le trait, il y aurait que quelque part que ceux qui auront acheter un peu à l'avance leur production auprès de maraîchers ou autres qui seraient quelque part à l'abri. Mais ça, je le disais pas trop. Puis j'avais des copains aussi qui me disaient « Ouais, moi je viens en AMAP pour ça. » D'autres qui disaient « Ben ouais, moi je viens en AMAP parce que j'ai pas envie de donner de l'argent aux grandes surfaces. » D'autres qui disaient « Ah ben ouais, parce que je suis sûr que ça fait vivre un producteur local, je vais voir du monde, j'ai des recettes, on ne sait jamais sur quoi on tombe, ça nous permet de découvrir des variétés anciennes ou autres. » Donc voilà, il y a plusieurs motivations pour entrer dans les AMAP. Et je m'étais dit, mais c'est quelque part un système économique en miniature très intéressant. Et là, Donc je monte ça avec des copains en 2004, donc les premières du département de l'Aude. Et ça marche. Ça marche tellement qu'on a des personnes à liste d'attente. Et là, je me dis, bon, ben, il faudrait trouver un autre maraîcher pour mettre en face de ces listes d'attente. Et là, impossible de trouver. C'est quand même. Et donc, oui, parce que dans le Lauragais, c'est le pays de la pensée unique, blé dur, tournesol. Il n'y a pas de maraîcher. Donc, on fait un appel dans la presse, ça ne mord pas. Et puis là, au bout d'un an, je suis contacté par un maraîcher de Carcassonne qui me dit, voilà, ça fait 2-3 ans que je livre à Toulouse, j'ai 3 AMAP, 3 groupes de consommateurs. Moi, ça me dirait bien de prendre un groupe de consommateurs. J'y vais, allez, banco. Bon, ça marche, tout ça, ça se sait, ça se développe. Et là, encore des listes d'attente. Et là, 50 consommateurs de plus en AMAP. Et là, je lui dis, bon, ça te dirait, là, 50 consommateurs de plus, là, tu lâcherais Toulouse? Il me dit, ah ben ouais, là, ma femme est enceinte, je retape la baraque, ça me ferait moins de trajet. Allez, banco. Boum, il prend 2 autres groupes de consommateurs. Et là, je m'étais dit, mais ouais, c'est bien tout ça, mais quelque part, c'est quelque part le libéralisme à l'envers, quoi. D'habitude, c'est une concurrence entre entreprises, entre producteurs, mais là, il y avait une concurrence entre consommateurs. Pour, c'est vrai, une niche, pour un produit identifié, mais j'ai dit quand même, ça pose question. Et ouais, et Toulouse, là, ouais, effectivement, il y avait quoi? Il y avait 300 000 habitants à peu près dans l'aire urbaine, dans le périmètre actuel de l'aire urbaine toulousaine en 1945, il y avait 4 000 maraîchers à peu près. Maintenant, il y a à peu près 1 million d'habitants et on n'a même pas 30 maraîchers. Donc, je donne l'exemple de Toulouse, mais vous pouvez le retrouver ailleurs. Entre-temps, ben, les terres ont été bon, artificialisées. Donc l'urbanisation concernant l'habitat, mais également les infrastructures, réseaux ou autres. Il faut bien que chacun accède avec l'énergie, avec le pétrole bradé, ben, au rêve individuel, villa, gazon, piscine. Donc c'est ce qui nous a fait énormément étaler aussi. Donc les meilleures terres qui étaient les plus plates, les plus riches, les plus limoneuses, les plus irriguées, les plus mécanisables, eh bien, elles ont été complètement recouvertes par ben, l'urbanisation, comme dans beaucoup d'endroits. Et la ceinture maraîchère toulousaine, qui nourrissait encore, dans les années 60, le restaurant universitaire de l'Université Toulouse Jean Jaurès, eh bien, elle est complètement artificialisée. Et Toulouse est devenue donc perfusée par les balais de la grande distribution, comme un milieu rural. Et là, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait voilà, une rupture dans la chaîne d'approvisionnement, tout ça quand même. Bon. Et donc tout ça, ça me questionnait, et je voyais que les circuits courts dans l'Aude, là où je travaillais, comme conseiller en développement local, c'était tabou, il ne fallait pas en parler, parce que c'était mal vu, par rapport à la même mise qu'avait le système des circuits longs dans le Lauragais. Le conseil départemental de l'époque ne voulait surtout pas en entendre parler parce que ça fâchait ses copains. Donc, du coup, je m'étais dit, ben, tant pis, tu vas contourner le verrou local et tu vas faire une expérience, tu vas te mettre en scène. Donc, j'avais entendu parler d'une expérience qui s'était déroulée en 2000, quelques années avant, au Québec. C'était deux journalistes qui avaient fait le pari de se nourrir uniquement dans un rayon de, je crois, de 150 km. Je m'étais dit, bon, ben, tu vas essayer de faire pareil, mais à la sauce lauragaise et à la sauce du géographe. Et avec, tu vas te faire suivre par un médecin. Alors ça, ce n'était pas prévu au début. Quand j'avais annoncé que j'allais faire ce pari de ne nourrir que dans un rayon de 150 km, on m'a dit, ouais, et tout, tu vas être malade, tu vas t'anémier et tout. Ah bon ? Eh bien, parce que tu n'auras plus de vitamines. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien, parce que tu mangeras plus de fruits exotiques. Mais, ah bon ? Et là, on voit les effets du matraquage, de la pub, tout ça, là, produit survitaminé, ben, tout simplement parce que ça a été tué pendant l'étape de transformation. Donc je me suis fait suivre par un médecin, un nutritionniste, bilan sanguin avant, pendant, après. Je m'étais fait suivre également par une conseillère en économie sociale et familiale qui avait déterminé si ça me coûtait plus cher, pas cher, moins cher, pareil ou autre. Et donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes ou autre. Et donc sur 4 saisons. Et c'était pour alerter, mais également pour montrer que c'était possible et pas plus cher. Donc en fait, ça a été une expérience très, très enrichissante et qui a fait que ce sujet a été fortement médiatisé. Et donc là, j'ai quelques années de moins, mais j'ai ressorti donc, la photo d'archives. Et donc ça, c'était le premier article qui décrivait comment j'allais m'y prendre et pourquoi j'allais le faire. En fait, c'était pour déjà poser le sujet. Et donc j'alertais, mais je montrais qu'il y avait aussi des pistes à creuser. Et 2 ans plus tard, ce qui n'était vraiment pas prévu, je me suis présenté à une élection, ce qui n'était pas prévu non plus. Et j'ai été élu conseiller général dans l'Aude. Et quelque part sur ce programme-là, quoi, sur un programme de relocalisation de l'économie, en zoomant évidemment sur l'alimentation, mais aussi en démontrant que économie et écologie, c'est pas opposé. L'économie étant, et ça on ne veut pas encore le comprendre, l'économie étant un sous-produit de l'écologie, la base de tout c'est l'écologie, ce sont les ressources, à partir de là on fait de l'économie. Mais là, avec ce système-là, on peut fixer également de la richesse sur le territoire. Et à travers nos achats, on maintient certaines infrastructures, et notamment des infrastructures agricoles, économiques, des savoirs. Donc tout ça, j'ai réussi à le faire comprendre sur mon territoire. Et puis comme j'avais fait avant de promettre, eh bien, ça a plu davantage. Et donc, j'ai pu voir à l'intérieur des structures comme conseil départemental, tout ça, que la question des circuits courts de proximité, oui, avait un peu évolué, oui, petit à petit, on se rend compte que c'est mieux pour l'économie, parce qu'on fixe la richesse sur le territoire, c'est mieux pour l'écologie, d'accord, c'est mieux pour le lien social, d'accord, mais jusqu'à présent, je me suis dit, la question des risques, est-ce qu'elle est abordée? La question de sécurité, est-ce qu'elle est abordée par rapport à ça? Eh bien, finalement, non. J'ai fait également pas mal de recherches sur des études à ce sujet. Est-ce qu'il y en avait? Non. C'est ce qui m'a motivé pour, justement, reprendre ces études et en faire mon sujet de mémoire. Parce que il y a quand même quelque chose, si on fait un peu d'histoire, si on s'y intéresse, on a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Ensuite, on l'a fait pousser un peu autour de nous, on a inventé l'agriculture, moins de 10 000, moins de 12 000, au néolithique. Ensuite, au moment de la création des villages, c'était aussi pour sécuriser les stocks de nourriture aussi. Donc en fait, on a couru après la nourriture, on l'a fait pousser un peu autour de nous, après on l'a sécurisé. Et c'est à ce moment-là aussi, au moment de la création des villages, qu'on a quelque part aussi inventé la politique, grandement, et l'aménagement de l'espace. C'est là où l'espace est devenu territoire. Et maintenant, c'est la nourriture qui vient à nous, sans qu'on se demande comment et jusqu'à quand. Et si on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls, au Moyen-Âge, elle était grandement basée sur l'exercice de 4 sécurités. Il n'y a pas de hiérarchie. La première, c'est lutter contre les envahisseurs. Donc, il fallait ériger et entretenir les remparts. On avait les impôts. La deuxième, c'était lutter contre les brigandages en interne ou autre, donc la sécurité quelque part intérieure. La troisième, c'était la sécurité sanitaire. Il fallait lutter contre les épidémies, les maladies, mettre en place un certain assainissement collectif ou autre. Mais la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Et il y avait des stocks. Et il y avait un aménagement du territoire autour de la ville qui était dévolu à cela, grandement. C'est pour ça que là, avec un historien de l'époque moderne qui avait zoomé sur les révoltes frumentaires, il avait retrouvé là, dans les archives de Narbonne, de 1715 à peu près, un arrêté municipal qui stipulait qu'il était, sur certaines parcelles, interdit de planter de la vigne. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi ? Parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée une dizaine d'années avant. Donc il y avait donc une prise en compte de cette question au niveau politique local, collectif, mais ça c'était une sorte de sécurité collective qui se rajoutait à une sécurité individuelle. Chacun avait au moins un petit bout de quelque chose, un jardin ou autre. Ça n'empêchait pas les famines, mais au moins ça sauvait les meubles un peu. Et c'était des sociétés de pénurie. Et c'était justement parce que c'était des sociétés de pénurie qu'elles s'organisaient autour de ça et qu'elles avaient une conscience du risque permanente. Et il y avait deux couples de risques. Premier couple de risques, c'était guerre-peste. Et le deuxième couple de risques, c'était approvisionnement alimentaire et ordre public. Les édiles des communes savaient parfaitement que s'il y avait des tensions sur l'approvisionnement en nourriture, le stockage et la bonne répartition, ou lutter contre les fraudes ou autres, il y avait automatiquement des émeutes. C'était ça. Donc ça a toujours été une hantise. Donc ordre public et approvisionnement alimentaire. Et petit à petit, cette question de créer un minimum quand même de conditions pour éviter des troubles à l'ordre public par rapport à la nourriture, qui était une fonction politique, elle est petit à petit sortie du champ politique. Et elle est maintenant indirectement, je dis bien indirectement, assumée par des acteurs privés que sont les grandes surfaces, Leclerc, Carrefour ou autre enseigne. Donc ça, c'était une fonction naturelle, on va dire, dictée par le réel. Arrive Napoléon, il dit voilà, moi les maires, c'est des contre-pouvoirs, je m'en méfie, c'est moi qui les nomme. Et donc les pouvoirs des édiles locaux ont été fortement réduits. Ça a correspondu à peu près à la même période au développement, à l'exploitation et au développement des énergies fossiles, des énergies fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole, qui ont fait qu'on a pu déterritorialiser quelque part la production alimentaire locale qu'on a fait venir de plus loin. Donc jusque-là, notre territoire, on y faisait gaffe parce qu'on a retiré notre subsistance. Mais maintenant, jusque-là, qu'on a une énergie magique qui nous permet de faire venir des richesses d'ailleurs, du coup, maintenant, notre territoire, on s'en fout un peu. Normal, on ne dépend plus quasiment de notre territoire. Là, je zoome sur l'alimentation. Donc, du coup, on a oublié et on a artificialisé ce qui était jusque-là, quelque part, sacré. Arrive Mitterrand, 81, il dit voilà, je décentralise, je redonne beaucoup plus de pouvoir au maire. Et là, on a une. Donc, ce n'est pas pour autant que les maires, quelque part, ont repris à leur compte ce sur quoi était basée la légitimité, une grande partie de la légitimité politique de leurs ancêtres, quelque part, les consuls. Non. Ben, normal. On est tous une génération qui sommes nés le ventre plein. Donc, cette conscience du risque, ben, les maires et les élus d'aujourd'hui, qui sont à l'image, j'en suis un, hein, je ne suis pas maire, bon, je suis élu, d'accord, mais qui sont à l'image de la population, ben, n'ont pas décliné, par exemple, dans leurs documents d'urbanisme ou dans leurs autres politiques publiques, cette question-là. Donc, le foncier qui jusque-là était, jusque-là, qui a, pendant des siècles, était nourricier, est devenu la variable d'ajustement de toutes les autres politiques. Alors que c'était la base de tout, avant. C'était du moins la priorité. Et là, j'ai voulu voir donc si le fait de ne pas produire près de là où on consomme et que dans le même temps ne pas avoir de stock et de ne pas avoir des populations préparées, est-ce que ces trois conditions-là étaient quelque part à l'heure actuelle vues comme un risque? Donc dans les ministères, armées, syndicats agricoles nationaux, certains élus, historiens, géographes. Voilà, en fait, c'est une enquête que j'ai menée au sein de ces mondes-là qui ne se parlent pas forcément, le monde de la production alimentaire et le monde des risques. Alors, j'en ai fait donc mon sujet de mémoire de master spécialisé. Après quelques mois, on va dire, de dialogue et de questionnement auprès de mes professeurs intervenants. Hein. Donc, notamment, il y avait des préfets, il y avait des pompiers, il y avait un peu de tout, quoi. Et je leur dis, voilà, est-ce que cette question-là est pensée comme je la pose, cette question? Ah ouais, non, ça, bon. Ça m'a encouragé à faire mon mémoire, donc, sur ce sujet-là. Donc en fait, juste avant ça, j'avais voulu... Alors, excusez-moi, c'est trop petit. J'espère que vous allez me croire sur parole. Donc il y a des études sérieuses qui ont fait le point sur l'autonomie alimentaire de nos territoires. Et ça va répondre indirectement, enfin du moins partiellement, à la remarque de monsieur. Globalement, nos territoires, nos aires urbaines ont une autonomie de 2% alimentaire. Bon, on est à Poitiers aujourd'hui. C'est écrit en petit, c'est pas fait pour. C'est pas fait exprès, je veux dire. D'après vous, l'autonomie alimentaire de Poitiers, c'est combien? 5 quoi? Pourcent? Non. Enfin, vous n'êtes pas loin quand même. Vous n'êtes pas loin. Là, on parle un jour. 3 jours. Peut-être, oui, s'il y a 3 jours de stock, c'est peut-être ça. En fait, c'est. Là, en pourcentage, en taux d'autonomie alimentaire. Oui, vous étiez pas loin.
Sans me souvenir, c'est 5%.
Il y a d'autres suggestions? Ouais, c'est 2 fois le taux du livret A. À peu près 1,60. Oui. Là, ce qu'ils ont pris, ce sont les aires urbaines. Voilà, donc c'est une étude que vous pouvez trouver facilement. Hein, c'est le cabinet Utopie. Voilà. Donc, on ne juge pas là. Oui. Alors, les chiffres qu'ils ont pris pour faire ces calculs-là, en fait, c'est ce que vous consommez, par exemple, dans votre ville, quelle est la part de ce qui est produit localement. Voilà, ils ont pris cette méthode-là. Voilà. Ça veut dire que 90, ouais, et en creux, hein, ça veut dire que 98% de ce que vous consommez, par exemple ici, comme dans d'autres urbaines, hein, ça ne vient pas d'ici. Non, ils ne sont pas allés jusqu'au de. Non, ils ne sont pas allés jusqu'à tracer. Alors, veuillez m'excuser, je ne suis pas local, si très local, mais je ne suis pas le local d'ici. Non, mais la nuance, on est d'accord. Non, là, c'est aire urbaine. On est d'accord. Non, mais là, c'est aire urbaine. Mais dans les campagnes, il faudra le dire donc aux auteurs de l'étude, mais dans les campagnes, c'est pareil. Si vous allez, par exemple, là, je prends un exemple que je connais, dans le Lauragais, blé dur, tournesol, je crains que, sachant qu'il n'y a quasiment plus d'élevage de canards, donc je suis dans le pays de la capitale mondiale du cassoulet, très bon cassoulet, hein. Mais il n'y a que l'eau qui est du coin. N'avait que 500 tonnes de haricots par an, des lingots de Castelnaudary, très bon, hein, pour plus de 80 000 tonnes de cassoulet produit. Et vous n'avez plus d'élevage de canards. Oui.
Pour donner un ordre d'idée dans la région, la ville de Bordeaux, au niveau de son conseil consultatif de la gouvernance alimentaire, dont je suis membre, on est à 2% d'autonomie alimentaire. Et le circuit court à Bordeaux aujourd'hui, en dessous de 200 km, ça n'existe pas. Fournir Bordeaux, ça n'existe pas. Au bout de 3 jours, à Bordeaux, au bout de 3 jours de problèmes d'approvisionnement, les forces de police et les forces de l'ordre ne suffiront pas pour endiguer les heurts et tout ça qui peuvent se produire. On voit bien que quelques pourcents de réduction sur du Nutella, ce que ça produit. Imaginez le pain. Imaginez le pain. Donc ce que je veux dire par là, c'est sérieux.
Oui, oui. Ouais, c'est mon sujet, ouais. C'est ça. Non, mais pour dire que c'est là, oui, il incarne sur Bordeaux la problématique générale.
Il y a le livre récemment qui vient de sortir d'un géographe qui est très intéressant, qui s'appelle Métropole barbare de Guillaume Faburel, qui parle de ces questions-là, c'est-à-dire la métropolisation, c'est des gens, on agglutine des quantités de gens astronomiques qui n'ont aucune autonomie personnelle, c'est-à-dire qui sont les premières victimes de. Du manque, s'il y en a bien.
Oui, besoin primaire. On regarde la pyramide de Maslow. C'est l'alimentation, ça fait partie, comme respirer, boire. Voilà. Donc, en fait... Oui. Ah, excusez-moi, je ne l'avais pas vu.
Est-ce qu'on prend aussi en compte le fait que ce qu'on produit localement n'est pas consommé sur place et vendu?
Également. Il y a un creux, oui. Il y a ce double flux, en fait, qui montre bien l'aberration du tout transport et le fait qu'il y a un réel enjeu pour reconnecter tout ça et réfléchir tout ça. Donc voilà, c'est bien de poser les choses pour aller vers le mieux. Hein. Donc en fait, l'alimentation en fait, dans nos pays riches, en fait, elle n'est, le risque alimentaire, quelque part, il n'est vu que si, par exemple... La viande où il y a des salmonelles ou autre. Oh oui, là on est bon, le risque alimentaire, on y passe. Mais, et souvent sur les excès. Est-ce que je vais déclencher une maladie à force de mal manger ou autre? C'est jamais vu sur un éventuel non-accès. C'est justement parce qu'on a le ventre plein et parce que consciemment ou inconsciemment, on considère que manger est une affaire réglée, qu'on ne se pose même plus cette question. Alors que ça a été, depuis la nuit des temps jusqu'à il y a peut-être 60 ans, la préoccupation première de tout humain. Mais là, c'est sorti de notre cerveau, mais également des politiques publiques d'aménagement du territoire. Et là, j'avais listé dans les politiques publiques, il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire. Il existe un aménagement alimentaire, un aménagement du territoire par rapport à des diverses infrastructures, hein, que ce soit le haut débit, les autoroutes, il y a eu le chemin de fer, l'électricité, tout ça. Donc ça a été pensé. Mais au niveau de l'alimentation, rien. Pas au niveau du territoire, des territoires. Dans la loi EGalim, agriculture, alimentation, il n'y a pas cette question-là. Elle n'y est pas. Au niveau territorial. Au niveau territorial, monsieur. Comment ?
En électricité, on sera autonome.
Ah, c'est un autre débat.
Non, c'est ce que vous avez dit. On serait...
Non. J'ai parlé d'aménagement du territoire. Pour amener... Mais non, on est d'accord, mais c'était pas. Oui, non, mais alors, vous avez dit ça, mais c'est pas le sujet. J'ai dit au niveau de la répartition, de l'aménagement. J'ai dit au niveau de l'aménagement, on a pensé l'aménagement du territoire au niveau des divers services, c'est-à-dire mettre des perceptions partout, des, admettons, un maillage du chemin de fer, des routes, le haut débit. L'électricité, amener l'électricité partout, c'est une pensée politique et une déclinaison très concrète en termes d'aménagement du territoire, tout ça. C'est un maillage. Voilà, je parle de maillage. Mais en creux, je dis qu'au niveau de l'alimentation, on ne le pense pas. C'est ça que je dis. Oui, il y a des vulnérabilités. Après, pour tout autre réseau. Oui, justement, la sécurité, c'est la base du truc. Au niveau de la loi d'agriculture alimentation, il n'y a pas cet aspect-là, cet aspect de maillage alimentaire du territoire. Il n'y est pas. Au niveau de la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, il n'y a pas. Dans les plans de prévention des risques, il n'y a pas. Dans les plans communaux de sauvegarde, la moitié à peu près des communes en France ont un PCS. Il n'y a pas de vulnérabilité alimentaire qui est pointée comme un risque. Sauf depuis 3 semaines à Dompierre-sur-Yon, en Vendée, il y a une commune qui a rédigé un cahier des charges, c'est un appel d'offres qui est lancé, où le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire est pointé comme un risque supplémentaire. Au-delà des 5 listés par le département, par la préfecture. Donc, ça y est, ça commence. J'y étais il y a un mois et demi à donner une conférence et ça fait plaisir. Rien dans les 10 crimes, donc dans les documents d'information communaux, des risques majeurs, qui est une partie du PCS, hein, le 10 crimes. Hein. Il n'y a pas non plus cette question-là dans les ACRE, dans les schémas d'analyse et couverture des risques, au niveau des organisés par les SDIS. Au niveau des sites gouvernementaux, il n'y a pas. Et dans la loi de programmation militaire, cette question n'y est pas encore. Alors que l'alimentation fait partie d'un des 12 secteurs d'activité d'importance vitale, oui. Mais le foncier nourricier, les paysans et les fermes ne sont pas listés comme... point d'importance vitale ou comme acteur d'importance vitale, alors que nourrir, produire la nourriture pour la nation, c'est quand même la première des sécurités. Donc, j'ai pointé ça dans mon étude et j'ai envoyé un questionnaire, je suis allé même l'amener directement dans ces mondes-là, mais de manière très encadrée. Donc, comme co-directeur de mémoire, j'ai souhaité avoir un militaire, un ancien colonel de Légion, qui a été conseiller militaire, et un géographe également, un directeur d'aménagement du territoire d'une communauté d'agglos en banlieue parisienne. Pour justement... 30 minutes, merci. Pour justement... montrer que c'était sérieux, mais entre-temps, la direction du renseignement de la gendarmerie nationale s'est montré intéressé par mes travaux. Et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, également. Le bureau sécurité économique. Qui m'ont dit, effectivement, ça nous intéresse. OK pour vous ouvrir des portes. Pour aller enquêter, pour aller discuter. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'avais donc un encadrement méthodologique, universitaire, et deux cautions institutionnelles et professionnelles. Ce qui m'a permis d'avoir des rendez-vous et des réponses. Alors, j'ai eu énormément de réponses. Et dans la restitution et d'ailleurs dans les statistiques que j'ai faites, je n'ai tenu compte que des réponses écrites qu'on m'a renvoyées. Donc en fait, j'ai eu plus de 50% de retours. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des enquêtes ou des questionnaires, mais lorsqu'on a 5%, on est comptable. Et là, j'ai eu plus de 50% de retours, et des retours assumés, argumentés, et j'ai été reçu par des préfets, des services de défense et de sécurité, des ministères, des syndicats agricoles nationaux. Donc j'ai retranscrit les retours dans mon livre. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que non seulement on m'a répondu, alors déjà qu'on me réponde, ça veut dire que quelque part c'est un sujet. Parce que ces gens-là qui ont des hauts postes ou autres, je veux dire, ils n'auraient pas forcément répondu si le sujet était déjà traité ou si ça n'était pas un. Et là, je peux vous dire qu'ils étaient extrêmement contents que quelqu'un le fasse et que ça ne vienne pas d'eux. Alors ça, déjà, d'avoir autant de retours, pour moi, c'était déjà quelque chose de valeur et de révélateur. Et chaque personne qui m'a répondu, notamment des militaires, ont accepté, un, que je prenne leur retour même sous forme de verbatim, c'est-à-dire Monsieur X, Monsieur Untel, non pas X puisque je les ai nommés, deux points, ouvrez les guillemets, a dit que, donc non seulement dans le mémoire, mais également dans le bouquin que j'en ai fait, version publique. Donc là, je me dis, là, vraiment, il y a quelque chose. Enfin, je le sentais, je le savais, mais je ne pouvais pas mesurer à quel point c'était un sujet et à quel point ce sujet mériterait d'être creusé et à quel point aussi... on fonctionne sous forme de silos, de tuyaux d'orgue. L'administration française, y a des mondes qui ne se parlent pas non plus, même à l'intérieur de l'administration française et même à l'intérieur des ministères. Alors qu'ils sont très forts, très bons dans leur métier, mais sur certaines questions, on va dire transversales, ça a du mal parce qu'ils ne se connaissent pas forcément. Il n'y a peut-être pas forcément des consignes pour, sur certains sujets qui travaillent ensemble, quoi. Donc en fait, ça, je l'ai montré. Et en fait, c'est un vrai sujet. Le fait de ne pas produire à côté de là où on consomme, à l'heure de la vulnérabilité des systèmes d'approvisionnement, à l'heure du tout numérique, à l'heure du terrorisme, à l'heure de tout ça, et à l'heure où les populations ont complètement oublié que Papa État n'a pas de plan. Et non, Papa État n'a pas de plan. On veut toujours moins d'État, on gueule toujours après l'État, mais on veut en même temps qu'il s'occupe de tout. On se déresponsabilise, on ne cuisine plus, on ne stocke plus, on n'achète plus à nos paysans, mais bon, après on pleure quand soit ils se suicident, soit ça part à l'agrandissement, ou soit ça termine en maison ou en centre commerciaux. Voilà, on est quelque part tous responsables. Et on en arrive à des grosses vulnérabilités sur nos territoires et à peut-être des troubles à l'ordre public s'il y a un problème sur les perfusions. Nos territoires sont devenus comme des corps malades au niveau de l'alimentation. Nous ne sommes plus quelque part capables de nous nourrir de produire notre nourriture, ni de la stocker en cas de pépin. Donc ça a été réellement pointé et reconnu par les personnes. Là, par exemple, vous avez le chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité de Paris, par exemple. Il est juste colonel en fonction. Et là, vous pouvez le voir dans le... Dans mon ouvrage, j'ai dit oh oui, il y a eu une répétition, oui, en 1940. Il n'y en a pas eu entre-temps. Lorsque vous voyez, par exemple, Patrick Lagadec, lui, il est spécialiste des crises hors cadre. Et là, je voulais juste un sujet potentiellement critique non pris en compte, en interaction avec d'autres phénomènes. Le tout, probablement hors maîtrise aisée, comme tous les autres crises, risques critiques en émergence, la question est hors analyse et hors champ de responsabilité. Donc, c'est un peu langage techno, mais pour résumer, c'est « Ah ouais, c'est vrai, on ne se pose pas la question. Oui, c'est un gros risque. » Et on ne sait pas qui c'est qui pourrait s'en occuper. D'autant plus que ça n'a pas été mis à l'ordre du jour. Voilà. Oui. Mais justement, je vais y arriver. C'est justement... En fait, je l'ai fait sous forme de démonstration pour arriver à conclure que tout ça, c'est une question de sécurité. Et avec la sécurité, on peut aborder librement beaucoup de choses. Parce que c'est du régalien. Donc, dans 10 minutes, vous aurez encore plus d'éléments de réponse. Donc, comment ? Aïe, d'accord. Donc, en fait, voilà, donc, il y a de nombreux témoignages qui, justement, voilà, valident la question. Et tout ça, c'est au niveau technique, des hauts fonctionnaires, des syndicats agricoles, voilà. Et j'ai quelque chose qui m'a aidé. Dans le cadre de dans la période où j'ai rédigé mon mémoire, c'est justement les blocages dans certains endroits des Gilets jaunes. À La Réunion, par exemple, c'est l'endroit où le gouvernement a le plus vite baissé le pantalon en disant OK, promis, craché, juré, pendant 3 ans, il n'y aura plus de taxes, plus d'augmentation de taxes. Mais pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il y avait déjà des émeutes. Port bloqué, île non autonome, encore moins qu'ailleurs, donc émeutes. Il y avait même, dans certains endroits en France métropolitaine, des grandes surfaces où, rayons vides. Pourquoi ? parce qu'une centrale d'achat, fait une centrale de grande surface, était bloquée 200 km à côté, plus haut. Et il y a même, là, j'avais repris une interview là, d'un responsable de supermarché qui disait « Heureusement qu'on a encore quelques producteurs locaux, car cela nous a permis de ne pas avoir des rayons totalement vides. » Et là, on est dans des moments de vérité quand même. Hein. C'est soit on a à bouffer, soit on n'a pas à bouffer. Donc, je me dis, mais là quand même, c'est un petit coup de bol, parce que je n'avais pas encore fini de rédiger mon mémoire. J'ai dit, là, tu as des illustrations de ce que tu penses depuis 20 ans, et là, tu vas avoir des exemples. Tu vas pouvoir le présenter devant le jury. Donc, et la majorité des retours que j'avais eus là dans mon enquête, c'était même avant les blocages des gilets jaunes. Alors, ce que j'ai fait pendant les 6 mois à peu près de cette étude, ça a été aussi de convaincre une sénatrice de la Haute-Garonne qui m'a dit « Ah ouais, là, effectivement, c'est un gros sujet, je ne l'avais pas vu comme ça, je m'engage à le creuser au niveau du Sénat. » Donc ça, elle me l'avait dit au mois de janvier dernier ou décembre dernier. Et donc j'ai dit « Ben ouais, ça serait bien. » J'avais fait aussi pour faire un peu de sensibilisation, un peu avec mes petits moyens, mais bon, c'est de passer par l'économie sociale et familiale. C'est-à-dire, j'ai lancé une opération, je viens manger local chez vous. Voilà, je lance le défi à qui veut le relever, ça peut être une famille, des associations, comité des fêtes ou autre, de réaliser un repas de fête, je dis bien un repas de fête, local, chic et pas cher. Alors local, moins de 51 km autour de l'assiette, les ingrédients. Chic, donc assez élaboré, mais dans l'idée, hein, pas besoin de présenter du caviar, même s'il n'y en a pas, si peut-être dans l'estuaire de la Gironde, mais entre 3 et 5 plats, et à moins de 9,50 € par personne. Mais 9,50 € par personne. Mais c'était un repas de fête, hein, entre 3 et 5 plats. Et moi, j'arrive avec le pinard. Alors, pourquoi ça? Je peux vous dire que ça marche. D'ailleurs, on le vérifiera demain à Niort. Pourquoi j'avais fait ça? Mais tout simplement pour montrer aussi que, à travers l'économie sociale et familiale, on peut être aussi acteur d'une reterritorialisation de la production alimentaire à travers la consommation fléchée et responsable. C'est-à-dire que depuis 60 ans à peu près, hein, ou 50 ans, qu'on n'achète quasiment plus rien à nos producteurs, tels que des muscles qu'on ne sollicite plus, eh bien, ils sont fondus, ils ont disparu. Et là, nos infrastructures nourricières, on ne les a plus au niveau de nos territoires. Alors que si on leur achète tout simplement leurs produits au vrai prix, c'est-à-dire par rapport à leur coût de production, non seulement on les maintient, mais c'est aussi quelque part une assurance survie. Une assurance survie pour nous, si jamais il y avait des problèmes d'acheminement. On aurait nos producteurs toujours auprès de chez nous. Donc avec un fléchage de notre consommation, on fabrique quelque part de la sécurité autour de chez nous. Aussi. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Acheter des produits loin, de loin, c'est fabriquer de l'insécurité localement. Vous perdez vos producteurs, vos artisans, voilà quoi, les savoirs, les savoir-faire, tout ça, local. Oui. Ben, tout à fait. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais je suis complètement d'accord. Hein.
C'était pas par rapport à l'agriculture, c'était sur la formulation.
Ben, il a raison.
Façon dont on présente
Ben ouais, ben c'est tout à fait ça. En tant que consommateur, on a notre part de responsabilité. Moi, je ne supporte pas d'entendre dire c'est la faute aux élus, c'est la faute aux élus. Non, c'est pas vrai. En tant que consommateur, on est aussi co-responsable, mais aussi co-porteur de solutions. Aussi, en tant que consommateur. Et consommateur, il y a les entreprises, il y a les élus, il y a l'État. Je veux dire, c'est, on le voit au niveau de la politique de sécurité routière. On peut penser que c'est chiant, on est fliqué, bon, tout ça, d'accord. Mais si on regarde sur la méthode, pourquoi ça a marché ? Ben, tout simplement parce qu'il y a eu tous les échelons, donc État, administration, les collectivités locales, les associations et les conducteurs et les enfants qui faisaient chier les parents, mets ta ceinture, roule pas vite et tout ça, c'est parce qu'il y a eu à tous les niveaux une mobilisation générale de tous et de toutes les institutions et de tous les échelons qui a fait que, et les constructeurs aussi qui ont fait des voitures un peu plus sécures, d'accord. Mais c'est justement parce qu'il y a eu toute cette mobilisation-là qu'on arrive à avoir beaucoup, beaucoup moins de morts qu'avant. C'est pour montrer, quelque part, la méthode. S'il n'y a pas une mobilisation générale sur quelques sujets que ce soit, ça ne marchera pas. Et on trouvera toujours un bouc émissaire. Hein. Ou, comme le dit Mignoreau, la substitution causale. Ah, c'est toujours la faute de quelqu'un, c'est pas moi. Donc, j'avais fait cette opération, que je continue, parce que c'est, en plus c'est rigolo, mais c'est aussi pour montrer que si on y arrive, par exemple, à réaliser un repas à moins de 9,50 €, un repas de fête, je dis bien un repas de fête, à moins de 9,50 €, ça veut dire qu'au quotidien, on peut y arriver pour 3 €, 3-4 €, et toute la richesse reste fixée sur le territoire. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et ça, en termes de pédagogie, je me rends compte que ça, c'est bien, ça impacte, ça marche. Donc en fait, ce n'est pas moi qui vérifie. D'abord, ce sont les journalistes qui viennent vérifier auprès des personnes qui relèvent le défi. Le tableau Excel rapporté au nombre de parts, les portions, combien ça a coûté, tout ça. Et à la fin, il faut que ça fasse moins de 9,50 €. Mais ça marche. Donc c'est tout bête, hein, mais par la consommation aussi, par le fléchage, on peut avoir du résultat. Voilà. Donc ça, c'était une opération que j'ai expérimentée, donc c'est, et qui marche et qui continue. Donc demain, je suis à Niort, lundi à La Rochelle. J'avais lancé aussi pendant ces 6 mois-là, j'avais créé la première formation sur les risques d'effondrement et les adaptations aussi. Donc ça marche, ça a tellement marché que là je suis en train de fabriquer un diplôme universitaire, un DU, sur la question. Donc j'espère que ça sera opérationnel pour la rentrée qui arrive. Alors, j'avais d'autres actions, et en fait la sénatrice, elle a tenu parole. Elle a tenu parole et elle a déposé un projet de résolution fin juin. Intitulé, ben en fait, comme mon bouquin, ils ont rajouté juste des territoires. Ça fait résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale. Elle l'a déposé donc début juin, fin juin, et elle l'a défendu il y a tout juste un mois. Voilà, le 12. Voilà, le 12 décembre. Et je vais vous passer.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le sujet de la résilience alimentaire n'est pas nouveau. Il est déjà présent dans plusieurs rapports sénatoriaux où il n'est bien entendu pas traité en tant que tel. Mais il existe de nombreux signaux qui se recoupent et qui m'ont incité à vous proposer cette résolution aujourd'hui. Les mesures qu'elle préconise doivent contribuer à développer une stratégie qui assure la résilience alimentaire de nos territoires tout en s'articulant avec la sécurité nationale. Ainsi, le dernier rapport de nos collègues Ronan Dantec et Jean-Yves Roux réalisée dans le cadre des travaux de la délégation sénatoriale à la prospective sur l'urgence de l'adaptation de la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050, consacre une grande partie de sa rédaction au déficit hydrique à venir et à la nécessaire adaptation de nos modes de production agricole. Ensuite, le rapport de notre collègue Guillaume Arnel sur les risques naturels majeurs en Outre-mer démontre bien combien certaines zones peuvent être vulnérables en cas de pénurie alimentaire. Les territoires ultramarins présentent les caractéristiques à la fois de pénurie et de production alimentaire et de grande dépendance aux approvisionnements. La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a également remis un rapport en 2017 sur la nécessité de repenser l'aménagement du territoire et d'avoir une cohérence vis-à-vis des changements climatiques à venir. Enfin, le rapport d'Yvon Collin, datant de 2012, sur le défi alimentaire à l'horizon 2050, mettait déjà en exergue l'importance de la préparation des pouvoirs publics sur les flux alimentaires, notamment vis-à-vis des zones les moins bien loties en termes de production. Vous le constatez, nous n'inventons rien. En regroupant l'ensemble de ces signaux épars, nous donnons une traduction très concrète aux risques potentiels de pénurie ou de vulnérabilité de nos systèmes de production et de distribution. Je vous rassure, mes chers collègues, je ne suis pas collapsologue et je n'ai pas sombré dans le pessimisme. Mais il s'agit de réinvestir le champ d'une compétence, celui de la responsabilité des élus, à pourvoir à l'alimentation de nos concitoyens, compétence trop longtemps oubliée en raison de la prospérité de nos sociétés dépendantes du pétrole. Je tiens à souligner que le texte soumis à notre Assemblée aujourd'hui fait écho au travail mené par Stéphane Linou, pionnier du mouvement locavore en France et ancien conseiller général de l'Aude. Depuis près de 20 ans, il mène une action de sensibilisation auprès des populations, des administrations et des élus sur l'alimentation en circuit court et sur son impact préventif sur notre continuum sécurité-défense. Il a récemment conduit une enquête auprès de différentes personnalités d'institutions sur le thème « Ordre public et non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire » qu'il a récemment publié sous le titre « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Le résultat de cette étude est édifiant. Nous sommes confrontés à un risque réel, mais qui n'a jamais été envisagé en tant que tel et encore moins évalué. En effet, alors qu'au fil des scandales sanitaires survenus ces dernières années, le sujet du bien manger s'est imposé comme enjeu de santé publique, mais un pan entier du sujet n'est jamais évoqué. Celui de l'articulation entre l'ordre public et la continuité alimentaire. Par le passé, garantir les conditions d'un minimum de sécurité alimentaire était un pilier de la légitimité politique des élus. Il est vrai que le modèle agricole a longtemps reposé sur cette conception du foncier nourricier, s'appuyant sur un aménagement du territoire local, multifonctionnel, qui occupait une place stratégique. Aujourd'hui, production et consommation ne sont plus territorialisées. Même les zones rurales sont dépendantes et vulnérables, alimentairement malades, car elles aussi sont perfusées par le balai des camions de la grande distribution. À l'heure des cyberattaques, du dérèglement climatique, du délitement du lien social et du terrorisme, la production, la distribution et l'approvisionnement alimentaire ne sont pas assez analysés en termes de risques stratégiques. Il suffit d'une annonce de blocage routier pour que les magasins ou les stations-service soient vidés et deviennent le théâtre d'émeutes avant même toute pénurie. Force est de constater un déficit avéré en capacité de subvenir localement à un de nos besoins élémentaires, celui de se nourrir, à un niveau suffisant en cas d'événement de force majeure. C'est d'autant plus inquiétant qu'il n'existe pas à ce sujet de véritable plan de préparation des populations. Pour l'heure, l'exécutif ne dispose que de réponses ponctuelles d'urgence, telles que les plans RSEC, qui ont démontré leur efficacité en cas d'événements exceptionnels, qu'ils soient climatiques ou lors de conflits sociaux. Cependant, ils n'offrent pas le recul suffisant en cas de réel changement climatique ou, par exemple, en cas de pénurie sur une plus longue période qui serait due à une crise systémique. C'est pourquoi nous formulons 6 propositions assez simples à mettre en place pour commencer à réorganiser plusieurs secteurs de la production, de l'alimentation et de la préparation des populations. Il nous faut d'abord définir une réelle stratégie de territorialisation des productions alimentaires. Pour cela, une révision de certains textes de loi serait urgente. Je pense notamment à la loi de modernisation de la sécurité civile et à la loi de programmation militaire. Les lois devraient prévoir en effet d'ajouter à la liste des secteurs d'importance vitale pour notre pays la production alimentaire et le foncier agricole nourricier. Autre piste de travail, se doter d'un texte pour protéger, je dirais même plus, sauver le foncier agricole en partenariat avec tous les acteurs de la filière. Ce texte est attendu avec impatience, tant par les élus que par les agriculteurs eux-mêmes. Un appel a d'ailleurs été signé le 27 novembre dernier par de nombreuses collectivités, associations, ONG, et surtout par le monde agricole, comme la FNSEA, la Confédération paysanne, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et même l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Il s'agit de placer l'environnement, les ressources naturelles et le foncier dans la logique de gestion d'une véritable stratégie de solidarité territoriale. Garantir les conditions d'un niveau minimum de sécurité et d'approvisionnement alimentaire est un devoir pour les autorités. Il en va de leur responsabilité et de leur lien de confiance avec la population. Qu'il s'agisse des élus ou encore des autorités institutionnelles, ces instances décisionnelles devraient s'assurer d'être en mesure de garantir l'existence d'une chaîne résiliente allant du foncier agricole jusqu'au consommateur, qui lui-même devrait être incité à flécher ses dépenses alimentaires sur son territoire. C'est bien l'objectif recherché par cette proposition de résolution, co-signée par l'ensemble du groupe RDSE, que de nous conduire à nous interroger collectivement sur la souveraineté et la sécurité nationale. J'en profite d'ailleurs pour remercier les nombreux collègues, sénatrices et sénateurs, qui ont manifesté dernièrement leur intérêt pour ce texte, qui ouvre un débat et qui permet de faire de la pédagogie. Alors que les pouvoirs publics perdent peu à peu la main sur des infrastructures d'intérêt vital, telles que les plateformes aéroportuaires ou la gestion de l'eau, il est essentiel et urgent de se préoccuper des questions de résilience alimentaire des territoires pour des raisons évidentes de sécurité nationale. C'est pourquoi, avec les membres du groupe RDSE, je vous invite à adopter cette proposition de résolution et vous remercie par avance, mes chers collègues, pour votre soutien. Je vous remercie.
Voilà. Alors, ça, c'était il y a 3 semaines. À peu près 3 semaines. Et à 16 voix près, donc on est au Sénat, à 16 voix près, ça a failli passer. Non, mais c'est une victoire. Et je vous expliquais pourquoi. Enfin, pourquoi je pense que c'est une victoire. En fait, il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution sur un sujet qui n'avait jamais été abordé, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, donc même la résilience alimentaire, jamais abordée, mais résilience alimentaire articulée avec l'ordre public et la sécurité nationale, encore moins. Et ça a failli passer. Il n'y a pas eu de commission préparatoire pour que les sénateurs s'approprient ce texte. Donc, en fait, il n'y a pas eu. C'est pas comme une proposition de loi, hein, où il y a des commissions avant. Là, il n'y en a pas eu. Donc, il y a eu une certaine, on va dire, incompréhension de certains, mais ce n'est pas grave. J'ai fait une analyse, on va dire, assez poussée de ce vote. Mais ça a permis d'avoir la parole et l'analyse officielle. Et c'est pour répondre, justement... Je vais maintenant répondre à votre question. Voici la réponse officielle. Donc, c'est le gouvernement. Donc, les risques pesant sur la sécurité alimentaire ne s'arrêtent pas aux frontières des pays défavorisés. La France, comme l'ensemble des pays industrialisés, est elle aussi directement concernée, malgré une production de denrées agricoles importante et supérieure à ses besoins, monsieur. La réduction des surfaces agricoles, l'artificialisation des terres, la raréfaction des ressources hydriques, l'hypersophistication des chaînes d'approvisionnement et la dépendance extrême aux énergies fossiles sont autant de facteurs qui rendent notre système alimentaire particulièrement vulnérable face aux menaces systémiques. La question du lien entre résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale mérite d'être pleinement prise en compte, eu égard à l'actualité. Le gouvernement est globalement d'accord avec l'esprit et les orientations de cette proposition de résolution. Voilà. Alors, là on est au Sénat. On n'est pas dans un bar PMU, et j'aime bien les PMU. Mais, quelque part, lorsqu'on se prononce comme ça, lorsqu'on dit des choses comme ça au Sénat, autant, donc là c'était le groupe En Marche a voté pour, et ensuite il y a eu le ministre qui a réellement parlé au nom du gouvernement. Hein. Donc en fait, la démonstration est validée. Il y a réellement un trou dans la raquette concernant cette question-là, et notamment à travers le continuum sécurité-défense. Le continuum sécurité-défense, ça commence par exemple au vigile de supermarché jusqu'au sous-marin nucléaire, lanceur danger. En cas de problème sur la chaîne d'approvisionnement, avec des populations non préparées, le vigile il serait débordé, il ferait appel à quoi ? À la police municipale ? Qui ferait appel à quoi ? Enfin, à qui plutôt ? À la police nationale. Qui ferait appel à qui ? À la gendarmerie nationale. Qui ferait appel à qui ? À une bonne partie de l'armée. Donc en fait, c'est ça le continuum sécurité-défense. C'est-à-dire que en cas de problème, c'est la sécurité intérieure et la sécurité nationale qui seraient impactées. Donc moi, dans ma logique, dans ma démonstration, je dis la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire devrait être regardée avec les lunettes donc de la sécurité nationale. Parce que sinon, ça veut dire que on a des généraux, des colonels, des responsables des risques, des sénateurs, un gouvernement qui dit n'importe quoi. Donc soit tout le monde est sain d'esprit, et donc c'est un vrai sujet qu'il faut regarder avec les lunettes de la sécurité nationale, et donc le porter au niveau de la PAC, puisque la France est le premier pays concerné par la PAC, et le ministre de l'Agriculture lui-même dit que c'est un sujet lié à la sécurité. Donc ça devrait être également un sujet qui devrait être abordé dans le débat public qui va se tenir par rapport à la réforme de la PAC, si on est logique. Donc en fait, il y a deux, on va dire, excuses quelque part que l'on peut avancer lorsqu'on est un pays pour sortir certains produits des accords de libre-échange. C'est l'excuse sanitaire, du style ton produit là, ton bœuf, je le veux pas, il est empoisonné, je ne veux pas, tout ça. Et l'excuse de sécurité nationale. C'est l'angle que je prends depuis 20 ans. Voilà. Donc en fait, ça vaut ce que ça vaut. On peut en penser ce qu'on veut. Mais si ça mérite débat. Je dis t'aimes pas la vérité, j'amène juste une démonstration. C'est mon vécu et les actions que j'ai menées. Mais soit toutes les personnes qui m'ont répondu et qui ont répondu officiellement sont folles. Et là, du coup, on reste comme on est. On pense que le marché va continuer à répondre à tout, qu'il n'y a pas de problème climatique, que papa État a des plans partout, qu'on va continuer à vivre comme on est. On peut rester comme ça. Soit on se pose, on réfléchit et on essaye de trouver on va pas dire forcément des solutions, mais des adaptations lucides, concrètes, par rapport à ce sujet. Donc voilà, donc je pose ce sujet. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un sujet assez... Voilà. Ouais, voilà. C'est un sujet quelque part assez œcuménique, on va dire. C'est que ça commence à être pris, je veux dire, au sérieux autant par le monde de la défense que par le monde traditionnellement de l'écologie. Et comme c'est un sujet qui est très transversal, quelque part, c'est normal que tout le monde, ben, quelque part, s'y penche. Et là, vous êtes ben, quelque part les premiers à m'entendre présenter un courrier que je mets à disposition de tous les candidats aux municipales de France, pas que de Poitiers. Sur la base de ce que je viens de vous exposer, un courrier que tout candidat peut envoyer à son préfet ou à sa préfète en rappelant ce que je vous ai dit, en rappelant la parole publique du gouvernement qui dit que c'est un sujet. Et en demandant pour après les élections au préfet ou à la préfète d'exposer quelle déclinaison départementale il ou elle souhaite donner à ce sujet. Mais en attendant, les candidats signataires de ce courrier peuvent s'engager à inscrire dans leur programme des actions visant à augmenter l'autonomie alimentaire de leur territoire, en s'inspirant de ce qui se fait déjà peut-être sur place, mais pas assez fort, ou en s'inspirant de choses qui sont beaucoup plus avancées peut-être dans notre territoire, à préparer également les populations, mais également, là où il y a, par exemple, des plans communaux de sauvegarde, d'intégrer ce risque-là dans le plan communal de sauvegarde, comme est en train de le faire la commune de Dompierre-sur-Yon. Voilà, donc il y a déjà, et alors sans communication, le premier article qui est sorti c'était tout à l'heure, à 16h. Déjà hier j'avais 6 listes en France qui ont signé ce courrier. Il y en a en Lorraine, il y en a en Vendée, en Gironde, dans Lyon. Et voilà, donc je termine sur ça parce que j'ai la Madame Loyal qui me met la pression là, elle a raison d'ailleurs. Mais donc voilà, donc c'est un lancement d'alerte argumenté issu d'un parcours militant et personnel que je partage avec vous. Et donc voilà, mais je suis très content d'avoir pu vous présenter ce sujet avant que vous me posiez des questions. Donc voilà, je vous remercie.
On a deux micros, du coup, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions.
Je voulais juste parler de l'initiative que nous prenons sur Niart. Je suis Yassir Yebad, je suis anthropologue d'alimentation et chef cuisinier. Et il y a déjà une dizaine d'années, j'ai quitté la fac et le parcours universitaire classique pour m'occuper de la question qui me semblait importante, qui n'était pas forcément de faire de l'aménagement du territoire et classiquement, mais plutôt de m'engager en tant que chercheur sur le terrain, au service des citoyens. On a construit un laboratoire de recherche qui s'appelle Territoire alimentaire et dont l'objectif, c'est l'innovation sociale par la recherche-action, notamment sur les questions d'alimentation. Et c'est comme ça que j'avais rencontré Stéphane sur ces questions de paix civile, puisqu'en fait, moi, ça me semblait extrêmement urgent de faire et de prendre la chose. Donc du coup, comme je cuisine, comme... Stéphane le demande, en tout cas l'inscrit, puisqu'on ne fait que de la cuisine locale depuis toujours d'une façon pédagogique. Nous, on a relevé ce défi, c'est ce que je dis un petit peu aux citoyens ici sur Poitiers, c'est qu'il faut absolument, face au génie civil qui est en fait l'État, qui fait par le haut, il faut absolument reprendre en main la question du génie civique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons par le bas, qu'est-ce que nous construisons nous-mêmes. Et donc sans jeter la pierre aux élus, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, l'élu, il a un mandat qu'on lui donne et c'est nous qui avons la légitimité et le pouvoir dans une société démocratique comme elle devrait être. Et donc c'est pour ça qu'on a emboîté le pas à Stéphane pour faire ce conférence de presse demain pour annoncer que pendant toute l'année, une fois par mois, on va mettre en place une espèce de journée d'information sur cette question d'éducation et de prévention des risques notamment majeurs, notamment sur la question alimentaire, avec une belle fête une fois par mois, repas locavor, atelier de médiation alimentaire, etc., etc. Parce que je pense que c'est à nous de nous en occuper, parce que plus on attend, et vous voyez l'état édifiant de la pénurie. Il faut quand même savoir que les trois quarts des risques, les trois quarts de conflits armés dans le monde sont liés à l'accès à la ressource, et notamment l'accès alimentaire. Moi qui suis d'origine marocaine, je peux vous dire que les révolutions dites arabes, ce n'est pas une fièvre démocratique, c'est simplement la bourse de Chicago qui a bougé un petit peu, et du coup, du jour au lendemain, les systèmes se sont effondrés. Donc quand les collapsologues nous parlent d'effondrement, merci, on le savait, je veux dire, les effondrements, ils sont là depuis longtemps. Donc on peut faire de la fin du monde un marché. D'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans le Capital de Marx. Si à un moment donné, le système va se mordre et se manger la queue, ce qu'on appelle la destruction pour continuer, Schumpeter. Hein. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est de dire à nous de nous relever les manches, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas la question du moins ou du plus. On est condamné à un truc extraordinaire, c'est de faire mieux. Alors faisons mieux, c'est-à-dire prenons-nous en main, tranquille, pour aller tous ensemble faire tout ça. Voilà. Et donc, si vous laissez vos coordonnées, on vous fera savoir tous les mois ce qu'on fait, et on vous invitera à venir collaborer avec nous ou en tout cas venir partager ça, parce qu'il faut absolument que nous tenions cette question dans la place publique sur le terrain.
Bonsoir. Rebonsoir. On ne vous enlèvera pas d'avoir été très malin dans votre façon d'aborder le sujet et pour l'amener sur la place publique et pour l'amener à chacun se questionner là-dessus. Moi, j'avais juste une question. Si on faisait un peu de prospective et si vous envisagiez ce qui pourrait être mis en place à 10 ans, par exemple, dans cette logique-là, par les gouvernements, l'État, la façon dont on pourrait envisager le système complexe d'un effondrement, d'une sécurité alimentaire, effectivement, mais aussi de tous les organismes sociaux complexes et tout ça, quelles pourraient être les limites de ce qui pourrait être mis par le gouvernement en place en relation à ce que vous avez dit et vis-à-vis d'une vision heureuse de ce que vous aimeriez tel que ça soit. Vous comprenez ma question ? En gros, comment le gouvernement va se saisir de ça ?
J'ai peur de la comprendre, c'est pour ça qu'avec une minute, je ne pourrais pas... Non, pour répondre un peu... Quelle est la limite ? Voilà. Alors, d'accord, c'est pleine lune, il y a une éclipse, mais je ne suis pas Madame Irma. Je vais tout modestement répondre sur ce que je connais le mieux. C'est-à-dire cette question de l'alimentation, mais que j'ai toujours eu le souci de mettre en avant, parce que ça peut être le cheval de Troie pour faire comprendre tout le reste. Si on comprend nos vulnérabilités et nos limites par rapport à quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire l'alimentation, si on arrive à faire comprendre ça au niveau de l'alimentation, on pourra le faire comprendre pour l'énergie, pour l'eau, pour les médicaments. On pourra le faire comprendre pour tout le reste. On part de la pyramide de Maslow, du premier étage, sur l'alimentation. Et si on travaille dessus, il y aura des liens avec tout le reste. Donc je pense qu'on ne peut pas arriver à une résilience globale de la nation et qui passe par les territoires, évidemment, si on ne commence pas par quelque chose de facilement identifiable. Et c'est d'abord l'alimentation. Donc c'est ce que dans le projet de lettre, enfin dans la lettre type, je note, c'est que ça peut être la première pierre pour construire une résilience globale de la nation en s'appuyant sur quelque part un État local facilitateur et plus un État censeur pour accompagner les territoires. Parce que la résilience, ça se construit avec des gens qui ont envie de travailler ensemble, donc qui ont les mêmes codes culturels, d'habitudes, de territoire, d'habitudes de travailler ensemble. Donc je verrais une articulation entre ces deux échelles de responsabilité avec les gens, mais sur un sujet facilement compréhensible par tout le monde. Donc je commencerai, moi, tout modestement, par ce sujet de l'alimentation, parce qu'il est relié à tous les autres.
Je vous ai entendu à Saint-Lézin, cette année au Festival Sans Transition, c'était fabuleux, c'était près de Chemillé. C'est vrai, depuis, je me dis, on va être pris dans une révolution incroyable, mais ça touche à tout, on est tous touchés, aussi bien l'agriculteur, parce que quand je vois dans le Poitou-Charente, 80% du blé part à l'exportation, mais c'est fou ça aussi. Donc l'agriculteur est obligé de complètement se révolutionner, mais même moi, qui habite à la campagne, qui est une pelouse. J'ai transformé une pelouse, je fais des légumes. Mais même nous, chacun de nous va être obligé de se transformer, produire de façon un peu autonome. Et puis je me suis mis aussi aux plantes comestibles depuis un ou deux ans, parce que ça aussi c'est la nourriture. Parce que la nourriture, il faut passer d'un truc comme ça et nourrir Paris, je trouve que c'est fou. Paris, 10 millions de personnes, c'est d'une fragilité absolue. Il faut tous s'y mettre pour changer. Voilà.
Les micros continuent à... Allez-y. Les micros continuent à tourner, donc n'hésitez pas à lever la main. Et surtout, si des femmes veulent poser des questions, n'hésitez pas.
Allez-y. Oui, moi, je voulais apporter un témoignage parce qu'il y avait quelques temps, j'avais lu le livre de Rob Hopkins sur la transition écologique. Et il y avait un récit dans ce livre qui m'avait beaucoup interpellé. Qui narrait ce qui s'était passé en Grande-Bretagne, qui présentait l'événement de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, le gouvernement britannique s'était dit on est une île, si les Allemands nous déclarent la guerre ou si d'autres pays nous déclarent la guerre, on va se retrouver encerclés avec un risque de blocus et nos populations risquent de se mettre on risque de mettre notre population en danger et en pénurie. Et à ce moment-là, le gouvernement britannique avait fait, alors ils s'y étaient pris 9 ans avant à peu près je crois, donc ils avaient bien anticipé la chose, mais ils avaient créé une résilience alimentaire, c'est-à-dire ils avaient développé localement sur chaque territoire de dire de quoi on a besoin pour pouvoir survivre. Et en fait ils ont passé la guerre tant bien que mal, certainement avec aussi la souffrance, mais ce récit m'avait assez interpellé à ce moment-là. Et je m'étais dit, effectivement, et ça m'avait interrogé sur notre résilience alimentaire, sur nos territoires, en disant, et si demain, alors peut-être pas une guerre, mais peut-être des événements climatiques, des blocages, ça se produisait, quelle serait notre capacité à pouvoir continuer à manger et à vivre localement. Et c'est vrai que ces questions qu'aborde M. Lénoux, dans l'histoire de l'Europe, tout simplement, ça a été posé, ça s'est construit. Après, l'Angleterre est rentrée aussi dans le circuit de la consommation et a perdu cette culture, mais ils ont eu cette culture-là, à un moment donné, de la résilience alimentaire et de l'anticipation.
Les jardins de la victoire.
Comment ?
Les jardins de la victoire, voilà. qui étaient nés aux États-Unis et qu'il y en a eu aussi beaucoup en Angleterre. Ouais.
Et je voulais savoir si, sur le plan européen, s'il y a des pays qui travaillent, qui sont déjà en avance sur ce type de travaux, si ailleurs, si vous avez connaissance. Je sais qu'en Suède, ils disent que je crois que les gens doivent avoir un minimum de rations de survie en cas de...
Alors, vous faites le... Donc oui, en Suède, justement, dans la troisième partie de mon bouquet, je cite cet exemple suédois. Au mois de mai 2018, le gouvernement suédois, parce qu'il y avait des tensions qui sont encore là avec la Russie, on dit voilà, on va mettre dans toutes les boîtes aux lettres de Suède un livret intitulé « If crisis or war comes », voilà, si la crise ou la guerre arrive. Et en fait, sans nommer les Russes quand même, parce que déjà ça serait un prétexte pour déclencher la guerre, c'est si jamais il y avait une guerre ou autre, ce que les Suédois devaient stocker, ne pas croire les fake news, tout ça, mais aussi de ce qu'ils devaient stocker chez eux eau, nourriture et compagnie. Mais ils ont appliqué, hein, il n'y a pas eu de manif. Hein. Vous faites la même chose en France. Comment ? On nous a caché des choses ? Non, voilà, donc, culturellement, on n'est pas câblé pareil. Non, mais c'est une vraie question. C'est aussi pour ça là, que j'ai fait cette petite expérience là de je viens manger local chez vous. C'est que comme on n'est pas câblé pareil, il faut essayer de passer par d'autres chemins, notamment l'économie sociale et familiale et la sensibilisation en ayant un peu plus de temps. Non, mais tout à fait. C'est, je l'ai pas traité, évidemment, mais je l'ai abordé. Ouais. C'est ça. Donc la préparation des populations, il ne peut pas y avoir... je ne dissocie pas une reconquête territoriale de l'alimentation avec la préparation des populations. C'est tout aussi important. C'est tout aussi important.
Bonsoir. Si. Déjà, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais une question qui rejoint un peu les précédentes. Donc, du point de vue de, pas des solutions, mais de ce qui peut être mis en place pour une résilience et donc une sécurité, comme vous dites, nationale. Est-ce que en fait, ça passe du coup par la reconsidération de l'urbain et de ses caractéristiques ? Parce que comme vous l'avez dit, en fait, l'agriculture a toujours été présente en ville, historiquement, sauf ces dernières décennies où ça a été construit socialement, en fait, la ville comme antithèse de la nature. Et on ne retrouve plus beaucoup de pratiques agricoles au sein même de la ville, quoi. Et du coup, d'où ma question, est-ce qu'en fait, une résilience, au vu des caractéristiques sociales d'une ville ou même de l'essor démographique des villes ou du fait que les villes rongent les campagnes aujourd'hui, en fait, est-ce que c'est possible d'atteindre cette résilience, en fait, sans reconsidérer la ville donc, qui a été construite comme antithèse de la nature ? Voilà. Et donc, l'agriculture urbaine, clairement, je sais qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place à Détroit, par exemple, quand la ville a été frappée par la crise, etc. Donc voilà vos pistes, s'il y a des pistes au niveau politique ou quoi, ou votre avis sur la question. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Si, si, c'est justement comme la question du monsieur au fol. Hein. C'est que je crains d'avoir compris l'ampleur de la question et ça mériterait un débat... Déjà des données scientifiques, style à la Jancovici. Et après, des choix, on va dire, philosophiques et éthiques qui rejoignent la démographie. C'est ça. C'est démographie et ressources. Et on fait comment ? Et ça, c'est un vrai débat. Donc, et là, on en arrive à la question du partage. Et où on met le curseur ? Et ça, c'est politique. C'est la gestion de crise.
Exactement. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils étaient géniaux. Ils ne sont pas géniaux. Il y a eu des excédents alimentaires. Quand ils ont commencé à faire des excédents de production, il y a quelques petits start-upers qui sont venus dire oui, peut-être qu'on pourrait faire une petite boîte de food tech. Vous voyez ? Et donc c'est pareil pour Brooklyn, par exemple. On a dit ouais, Brooklyn, c'est le premier lieu de fourniture d'agriculture biologique pour New York. Alors, en fait, c'était un programme d'insertion des Black Américains pour qu'ils sortent de la tôle avec un métier. Et ils ont commencé à produire du bio et ça a marché. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se raconter, c'est pas comment on enjolive nous les choses, mais comment la réalité les a suggérées. Et c'est pareil à Vancouver, il y a énormément de choses qui se font. Et aujourd'hui en France, on a des systèmes pyramidaux descendants, et c'est vraiment la mort absolue, puisque c'est depuis 2014 qu'on a Roi Soleil, lui, il a fait la transition avec Dieu. Roi Soleil, ensuite 2014, ensuite Napoléon. Et on a cette idée que tout est descendant. Et aujourd'hui, il y a une vraie force qui est de faire remonter. Moi, ce que je dis souvent, regardez, dans le goudron, il pousse de l'herbe. Pourquoi est-ce que le citoyen, il ne sortirait pas de terre ? Donc, c'est ça qui est important. Quoi. C'est-à-dire que souvent, ces histoires, on nous dit que c'est extraordinaire à Détroit. Mais Détroit, c'est juste pour que les mecs ne se passent pas d'accord.
Bonjour.
Oui, bonsoir. Ah oui.
Bonjour. Okay. Merci donc à vous pour votre exposé et puis à la Traverse pour l'organisation. contrairement au, enfin, à ce qui était dit, je suis assez d'accord avec les questions qu'il y a eu avant, il y a notamment par rapport à la guerre de 39-45, le gros point qui va nous en différencier dans l'avenir, c'est que la crise sera mondiale, on n'aura pas moyen d'acheter nos marchandises ailleurs, et donc du coup la solution est forcément sur notre territoire. Aujourd'hui, on l'a aussi beaucoup dit, notre agriculture est tournée vers une mondialisation, vers des transports loin, et donc du coup j'aimerais votre témoignage à vous deux, en fait, par vos expériences, sur une question très terre à terre. Combien de temps faut-il, une fois que tout le monde est d'accord, pour transformer une agriculture intensive de grains en une agriculture maraîchère sur le même terrain? Je vous remercie.
Très local. C'est Laurent qui va parler.
Alors moi, je peux répondre partiellement à la question, mais grâce aux terrains sur lesquels on est allé pour le podcast. Un des terrains sur lesquels on est allé, c'est le Bois Chaud Sud, donc à 2 heures d'ici en voiture. C'est une terre d'élevage. Et le problème qu'ils ont là-bas, c'est que les 2 dernières années, il y a eu des énormes sécheresses, et donc ils ont dû réduire leur cheptel, c'est-à-dire mettre à mort une partie de leur troupeau pour continuer à pouvoir donner de l'eau à ceux qui restent, parce qu'ils n'arrivaient plus à les abreuver. Et donc, il y a un travail qui est mené là-bas par le CIVAM, enfin, il y a le réseau des CIVAM, donc c'est des structures qui travaillent sur la transition, enfin, l'amélioration des pratiques agricoles. Voilà. Et le travail qui est mené là-bas, c'est sur renforcer la capacité des élevages, enfin, des éleveurs à produire la nourriture pour leurs bêtes. Et donc à réduire leur dépendance au pétrole parce qu'ils ont moins besoin d'importer du soja du Brésil ou d'ailleurs pour les nourrir. Après, la transition en pratique, donc j'ai pas d'exemple précis de terrains qui sont passés d'une culture intensive de maïs par exemple à du maraîchage. Le plus long, ce qui prend le plus longtemps, c'est pas que les légumes poussent. C'est bon, il y a une question de reconstitution des sols et tout qui peuvent prendre 2-3 ans en général. Et sur ce temps-là, les agriculteurs ont plutôt besoin d'aide financière pour pallier à leur manque à gagner. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est le travail auprès des élus locaux et auprès des agriculteurs. Parce que c'est des personnes qu'il ne faut pas aller voir avec des gros sabots de « Ah, mais n'importe quoi, pourquoi vous n'êtes pas tous en maraîchage ?» Parce que ça ne fonctionne pas. Et par contre, il y a peut-être des producteurs dans la salle.
Je suis un des fondateurs de Biocoop local. J'ai fondé Biocoop il y a 30 ans localement. Aujourd'hui, on a 85 salariés en Biocoop avec une filière bio locale. Mais aujourd'hui, la limitation que l'on rencontre sur le terrain de l'agronomie et des choix culturaux et le fait de privilégier l'export plutôt que l'alimentation locale, je le vis très quotidiennement, moi, professionnellement. Quand on crée une coopérative avec plein d'agriculteurs comme ça, à l'origine, c'était Nature et Progrès. Et merci beaucoup pour ce coup de chapeau pour les CIVAM. C'est grâce aux CIVAM, comme quelqu'un comme François qui fait partie de ça également. Nous sommes plusieurs producteurs comme ça et nous nous sommes organisés pour que notre marché soit porteur localement, quoi. Mais aujourd'hui, la limite est atteinte et moi, je réclame plus d'alimentation locale. Biocoop pourrait se développer encore plus, mais je réclame des petits magasins de proximité pour ne plus avoir besoin de prendre sa voiture. Il faut sortir du pétrole, de toute façon. J'ai travaillé longtemps sur la modélisation de la fin du pétrole, de l'agriculture hors pétrole. Et nous avons des modèles maintenant qui s'exportent et des Africains qui viennent nous apprendre le métier ici, à Maisonneuve, là, localement. Nous avons des échanges, nous sommes en coopération avec ces peuples-là. La souveraineté alimentaire, c'est pas du pipeau, quoi. Ça fait longtemps qu'on y bosse, hein, tous. On se connaît plein ce soir-là. On est dans le domaine de l'agriculture. Ça me fait chaud au cœur, cette soirée, parce que vraiment, on a besoin d'un gros coup de booster ici, localement, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça alimente un peu votre débat, quoi.
On prend une dernière question et après on laissera les intervenants conclure. Non, pardon.
Moi, c'est pas une question, c'est simplement que encore dans nos régions, il y a de la population, il y a beaucoup de personnes qui sont actives pour le changement, mais il y a des territoires où il n'y a pas grand monde et des agriculteurs tout seuls. Et des gens qui ont envie de changer de vie, qui cherchent des solutions, mais il n'y a personne pour les conseiller, pour les écouter. Et j'ai une amie de collège qui voudrait changer de mode de fonctionnement. Et en fait, elle n'a pas d'interlocuteur sur son territoire. Donc, il y a aussi un vrai problème de territoire aussi.
Les instituts techniques ou quoi ?
C'est-à-dire, pardon ?
Cherche un institut technique pour une...
En fait, jusqu'à présent, elle fait du mouton. Et elle ne voudrait pas arrêter complètement. Elle a des idées, mais sans pouvoir les confronter et que ça soit un peu qu'elle puisse se projeter et voir comment elle va se lancer, quoi. Parce que se lancer, elle a de l'énergie à revendre, donc c'est pas le souci de se lancer pour elle, mais c'est plutôt dans quoi elle va se lancer précis, comment elle peut se projeter.
Il y a un SIVAM dans son coin ?
Non, il y a pas.
Il y a dehors.
Non, elle est dans le centre de la France, il n'y a pas. Là, c'est vraiment... C'est un désert à la fois humain et puis un désert... ouais, je sais pas comment vous dire, mais...
Bah, Alexia a pris des notes. Hein.
Oui. Oui, il me semble que la ville d'Albi avait commencé à mettre en place certaines choses... Et je voulais savoir si vous aviez suivi ce projet et quelles étaient les réussites et quelles étaient les limites et les difficultés rencontrées.
Alors, de ce que j'ai suivi d'Albi, il y a eu beaucoup de communication avant d'avoir posé les fondations de leurs intentions. Donc, pour l'instant, c'est un échec. De ce que j'ai entendu, je ne veux pas parler à leur place ni même, mais c'est qu'il n'y a pas eu une méthode projet mise en place pour ça. Il y a eu une belle communication au début, mais il n'y a pas eu une méthode projet pour rendre concret, pour solidifier ce qu'ils avaient et l'intention de lancer. Donc en fait, on se retrouve... Comment ? Non, le terre ne manque pas. La preuve, ils ont fait un Ikea ou un Leroy Merlin dessus, donc il n'en manque pas des terres. Alors, là on en arrive au... Enfin, c'est partout pareil, hein, mais... il ne suffit pas d'avoir une idée ou une volonté pour qu'au bout d'un moment, il y ait du résultat. Il faut aussi s'entourer de structures qui savent pour accompagner, parce que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on sait tout. Lorsque j'ai été élu conseiller général à 20h, eh bien, à 20h30, j'étais aussi con qu'à 19h30. Hein. Donc je veux dire, si on ne sait pas s'entourer de structures comme Chambre d'agriculture, ADAR, les CIVAM ou autres, pour réellement chercher des producteurs, des maraîchers, trouver de quoi les former, aller les flécher sur un bon endroit, avec un outillage, avec un logement aussi qui va avec. Il y a tout ça, quoi, je veux dire, ça ne se décrète pas. Et puis il faut aller les trouver aussi, les candidats au maraîchage. Hein. Je veux dire, on parle, ouais, ce serait bien, mais c'est pas encore sexy. Hein. On a encore trop, quelque part, d'esclaves énergétiques, comme le dit Jean Covici, à notre disposition, pour que le métier de maraîcher devienne sexy. C'est ça. C'est qu'on n'est pas encore contraint à produire nous-mêmes notre nourriture, tout simplement parce que les énergies faciles sont encore là et à un coût accessible. Donc ça, c'est un fait. Mais ce qui est grave, c'est que dans le même temps, on détruit les infrastructures dont on aura besoin lorsqu'on rentrera réellement dans une descente énergétique importante. C'est-à-dire les infrastructures, ce sont les adductions d'eau, les terres, mais aussi les graines, les semences, la mécanisation aussi. aussi plutôt fabriquer un tracteur, les pièces, les pannes de partout. Enfin, il y a tout ça, quoi. Eh bien, non, mais alors déjà, commencer par reconnaître qu'il y a un problème et lister tout. Ça commence par nommer et identifier la chose. Mettre des mots sur la chose, comme disait Camus. Quand on ne met pas les mots sur la chose, on rajoute au malheur du monde. C'est ça. C'est d'abord mettre des mots sur la chose. C'est moi tout ce que... tout ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de ce mémoire, c'est pas de dire j'ai des solutions, non. C'était déjà le plus gros du boulot, c'est de démontrer qu'il y a un truc. Démontrer qu'il y a un truc qui va pas. Et si on ne prend pas le temps sur cette étape-là, on tapera toujours à côté au niveau des solutions. Déjà, vous pouvez vous inspirer de ce que fait Moins Sartou. Déjà, ils ont, ce serait couillon de réinventer la roue. Moins Sartou a déjà de l'avance là-dessus, quoi. Los Angeles, voilà, il y a des collectivités déjà qui pourraient déjà vous éviter de rentrer dans des choses trappes qu'il y a partout.
Bonjour, Alexandre. Moi, je suis membre actif du NAMAP sur Poitiers. Du coup, c'était pas vraiment une question, mais plus une réaction par rapport à ce que j'entends, notamment sur le rôle des collectivités. Je voyais là, par rapport au livre blanc que vous proposez, d'aller voir les préfectures. Si moi, personnellement, j'ai voulu m'engager du coup dans ces municipales pour 2020, c'est justement pour défendre cette cause de l'alimentation, parce que je pense qu'au niveau d'une collectivité, même si ce n'est pas une compétence obligatoire pour une municipalité, il est important de s'approprier vraiment ce sujet, puisque sur la partie acquisition des terres, le travail avec les maraîchers, sur la partie de transformer dans l'aménagement de la ville, en faire des villes potagères, choses qui ne sont pas forcément toujours faites, de relocaliser la transformation aussi des produits, on le voit par des régies, notamment sur des conserveries, sur tous ces sujets aussi de distribution au niveau local. La mairie, je pense, a une vraie possibilité d'agir et de transformer sa ville. Moi, je me suis un peu intégré dans un groupe collectif qui s'appelle Ozon 2020 sur Poitiers. Jeudi prochain, à Saint-Éloi, on fait une présentation de tout ce travail sur l'autonomie alimentaire. C'est une des 12 commissions qu'on a choisies pour la campagne municipale. L'idée, c'est de pouvoir échanger au maximum avec les citoyens de la ville. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous propose d'en discuter aussi jeudi prochain pour voir comment, sur Poitiers et Grand Poitiers, on peut vraiment s'approprier ce sujet.
Très bien. Merci.
Un plan alimentaire territorial issu de la loi d'avenir pour l'agriculture. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil-là? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire avancer les choses?
Et ta réponse, Stéphane, ce sera aussi ton mot de conclusion, parce qu'il va falloir qu'on rende la salle.
Très bien. Donc, ces dispositifs sont des bonnes choses, déjà, c'est bien. Ce qui est dommage, c'est que ça ne soit pas obligatoire. Et que les moyens d'animation soient rikiki. Voilà. Ce sont leurs plus gros, on va dire, points faibles. Parce que si c'était rendu obligatoire, là, on se rendrait réellement compte qu'il faut y mettre des moyens et ça pourrait réellement s'articuler avec les SCOT, avec les documents de planification territoriale. Donc là, ça s'inscrirait réellement dans le concret, dans les documents de planification. Donc voilà, c'est pas encore obligatoire, mais si jamais c'était réellement reconnu comme étant une question de prévention des risques, ben, du coup ça pourrait être obligatoire. Et je pense que là pour l'instant la loi Egalim est un échec au niveau de la rémunération des producteurs, donc c'est un constat. Mais je pense, et là c'est un truc tout à fait perso, une sensation on va dire personnelle, c'est que cela pourrait être un succès, cette question de répartition de la valeur, qu'en local, qu'à l'échelle où les gens se connaissent. Lorsque plus le circuit est long, plus il est simple de couillonner celui qui est au plus loin. Alors qu'en local, ce n'est pas pareil. Si on déclinait la loi Egalim au niveau de la répartition de la valeur à l'échelle des PAT, peut-être que les résultats seraient différents. C'est juste une sensation personnelle, mais ça serait quelque part logique. Ben, oui, c'est revenir à une économie du face-à-face, là où la sanction où la récompense est immédiate, un peu comme dans les AMAP, c'est pareil. Lorsqu'on a en local, on a la sensation d'avoir ses efforts et son implication reconnus et récompensés. C'est pour ça que les élections municipales sont celles auxquelles quasiment on tient le plus, et où l'implication dans les associations locales c'est celle qui est la plus, on va dire, appréciée. C'est parce que, quelque part, on a un taux de retour énergétique plus important qu'ailleurs. C'est-à-dire que son implication, on voit si elle a un impact ou pas. Ce n'est pas du repli sur soi. C'est tout simplement un retour sur l'énergie qu'on lance. Je pense que ça pourrait se dupliquer.
Et merci, ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane. Sur ce sujet de résilience alimentaire, avec La Traverse, on va sortir un podcast d'ici un mois pour continuer la discussion. Si ça vous intéresse, il y a des flyers à la sortie sur la petite table sur la gauche. Et on peut continuer la discussion au bar. Lequel ? Vous pouvez nous suivre et puis on va vous montrer.
Juste, j'ai oublié dans le courrier que je vous ai affiché. Donc, à l'attention, à disposition des candidats, pour écrire à votre préfet, ce matin, j'ai adapté ce courrier pour les citoyens. Donc, si vous avez envie, évidemment, après lecture, d'écrire à votre préfet sur cette question-là, en disant, moi, en tant que citoyen, je me sens concerné par cette question qui est liée à la sécurité. D'ailleurs, le livre blanc est en cours de rédaction, et jusqu'au 23 janvier, j'ai vu que les citoyens peuvent contribuer. Il n'y a pas eu trop de communication, j'ai vu là, mais c'est le moment. Donc, si vous voulez, j'ai des exemplaires là, voilà.